Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 21 mai 2011. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici en direct des trottoirs de Brooklyn, le direct en pied de grue que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Mélanger les genres, c'est peut-être ça qui manque à la BD, c'est qu'elle est restée très longtemps que BD, et on peut mélanger la photo à la BD, on peut mélanger des tas d'éléments avec la BD, et qui vont peut-être à ce moment-là amener les différentes personnes qui sont un petit peu plus frileuses, on va dire, vis-à-vis de la BD, à venir voir et à se dire, oui, tout compte fait, la BD, c'est effectivement le 9e art, c'est un art.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour samedi, bonjour soleil, bonjour sécheresse, bonjour DSK, bonjour NIPD, bonjour les cravates des flics des NIPD. Je sais pas si vous avez vu c'est...
Superbe.
Et il y a un site qui s'appelle Ties4Cops.com qui
oui,
a
oui, mais
pleuré
le motif alsacien, je sais pas ce que ça a d'alsacien, quoi, mais bon, voilà. Non, peut-être c'est... l'alsacien de New York.
C'est les graphistes qui sont éclatés, donc.
C'est bien pour recycler les patterns.
Sacré référence, les graphistes. Chapeau, les gars.
Hein. Mais surtout, ce qui est très drôle, c'est que tu regardes au petit matin sur ta chaîne d'info continue, tu vois vidéo, tu vois des. Enfin, tu vois. Tu as un ancien grand banquier qui est complètement défait et tout ça. Et tu le vois, bon, il fait la gueule, hein, il a vraiment le visage fermé. Et puis quand tu as l'image arrêtée, en gros plan, là tu ne vois que deux choses, The Cravats. Et là tu te dis, dans les séries américaines, quand même, ils sont mieux costumés que ça.
Ouais, c'est plus sobre, on va dire.
En général, c'est plutôt des cravates d'ailleurs qui sont d'un ton soit noir, soit gris, je sais pas, quelle est la vie après des graphistes spécialistes.
Et oui, parce que les cravates grises et tout, ou sombres, c'est plus. Ils peuvent en avoir des tonnes, alors des cravates comme ça, si t'en bousilles une au cours d'une cascade.
C'est moins évident. Surtout qu'elles sont vraiment pelle à tarte, elles sont assez larges, quoi, techniquement et tout. Excusez-nous, on n'est pas dans la partie habillage, mais on va.
Stylisme,
voilà, mais on va parler de bande dessinée dès à présent avec l'agenda. Puisque cet après-midi à Toulouse, Jason, qui est le dessinateur norvégien, c'est underground, et avec un graphisme assez minimal, hein, ça fait un peu penser. Il y en a plein qui disent que c'est justement la nouvelle ligne claire. De ce côté-là, mais avec un propos assez noir, eh ben, il sera là pour dédicacer sur un scénario de Velman. Tiens donc. L'île aux 100 000 morts, c'est chez Glénat. Ce sera tout à l'heure à partir de 15h à la librairie Gilbert Joseph, donc rue du Thor. Bande dessinée toujours, mais cette fois-ci c'est jeudi prochain à partir de 19h dans le cadre en fait des Cafés Savoir de l'Université Toulouse Le Mirail. Donc qu'on fait une discussion de comptoir sur un café, etc. avec des gens moyens, hein, je veux dire, puisqu'il y aura Dominique Coquart, maire de Villeneuve de Toulouse, Hervé Belin, adjoint aux animations et aux relations associatives, Dominique Pella, conseillère déléguée à la culture, les membres du conseil municipal, et donc il y aura une conférence sur la bande dessinée contemporaine et marginalité. Ce sera présenté par Jacques Duramat, directeur du Centre d'études de l'écriture et de l'image, professeur à l'Université Toulouse 2, Université du Mirail, pour ceux qui connaissent. Et le Mirail est l'un des quartiers, pas les plus favorisés de Toulouse, donc il sera au cœur du débat, si je puis dire. Ce sera jeudi à partir de 19h au Majora Art Visuel, c'est 3 boulevards des écoles. À Villeneuve sur Tolosane, je suppose, c'est pas à Toulouse. Donc voilà. Et la semaine prochaine, le supplément week-end sort un peu. des murs, puisqu'on sera au THSF, le Toulouse Hackerspace Factory. Ce sera au Theta Lab, donc, qui est un hackerspace, c'est-à-dire c'est des gens qui se réunissent et qui disent « Chouette, on va se bricoler des trucs assez amusants. »
Alors, pirater des trucs.
Voilà, on va pirater, on va faire de la musique avec un Kinect ou avec des Wiimotes, des trucs comme ça. Donc c'est bricoleurs absolument fous, géniaux, complètement délirants. Il y aura aussi des spécialistes de la sécurité, puisque je crois qu'il y aura des gendarmes de la brigade de répression du banditisme informatique qui seront présents. On espère qu'ils viendront sur le plateau. Plein d'autres choses comme ça que l'on va voir. Et il y aura une radio en continu lancée par le Theta Lab avec nos amis... Mince, j'ai oublié, je suis désolé. De Olivier Hogg qui notamment produit le matin... Le samedi à 7h du matin, la bretelle qui clique sur Radio FMR, qui est aussi diffusée sur Radio Campus. Donc ce sera. On va parler un petit peu de bricolage, de piratage, trucs comme ça, de MacGyverisme, et plein de trucs complètement déjantés. On va voir ce qui va se passer. Je ne le sais pas moi-même. Ce sera à la bonne franquette. En soirée, il y aura des concerts. Si vous y venez, l'accès est libre et gratuit. Participation demandée évidemment au public, mais vous pourrez par exemple découvrir ce que c'est que le kit Arduino. C'est une espèce de puce sur un kit de soudure où on peut mettre des composants, un truc comme ça, et programmer ça pour voir ce que ça va faire. Il y aura une démonstration de leur LED Pong. En fait, c'est une chaîne de balles de ping-pong. Dedans, ils ont mis des LED et qu'on peut piloter pour faire une image vidéo.
Donc, je crois qu'on a perdu du sport là. Du sport, on a perdu du sport.
Ouais, non, mais du sport là, je crois qu'il est dans les histoires de super-héros et on va en parler.
Mais tu l'as pas lu ?
Si, si.
Ah. Non, il a pas écrit la chronique. Je crois que c'est ça. Il était en panne d'ordi puisqu'il a pas suivi le brief. Donc voilà. Dommage parce que j'aime beaucoup ta coupe. Hein. Très années 80. Plus de réponses le 1er juin, mais ça on vous le dira vraiment, on vous le dira la semaine prochaine, voilà.
Oui, c'est ce qui s'appelle un teasing.
Ah, je suis spécialiste là-dedans. Malheureusement, il faut passer à quelque chose de beaucoup moins gai dans la bande dessinée, puisque on a appris la semaine dernière, j'avais complètement zappé alors qu'on avait préparé une brève pour Actua BD, le décès de Carlos Trio, scénariste argentin, donc qui est disparu il y a 10 jours, qui a marqué la bande dessinée mondiale de son empreinte. Il était né en 1943 à Buenos Aires, il a écrit son premier scénario à même pas 20 ans, et est devenu rédacteur, journaliste pour énormément de journaux, de magazines, puis il dirigea la revue satirique Satiricon, qui était vraiment la revue de référence en Argentine, jusqu'à son interdiction par la dictature de Pinochet en 1976, et on peut dire que les militaires avaient très peu d'humour. Donc on imagine ce par quoi il a failli passer. Son premier scénario de polar vraiment connu, il l'a écrit en 1975, il a fait plein d'histoires dont la plupart ne sont pas traduites en France encore actuellement, c'est un petit peu dommage. En 92, il a écrit l'histoire fleuve de la famille mafieuse Spaghetti Brothers, qui a été publiée pendant plus de 15 ans, on en est à plus de 17 tomes, je crois, un truc comme ça. Il sera remarqué avec La Grande Arnaque et Vieille Canaille, et aussi retremper sa plume dans l'humour avec la friponne Claire de Nuit et le fantastique Je suis un vampire, et ceci c'était bien avant la mode des vampires, puisque c'était ça avait commencé à être publié avant l'arrivée de Buffy en série. Patrick Gomet souligne à juste titre dans son dictionnaire mondial de la bande dessinée que c'est un maître de la satire sociale. Mais il serait très long d'en donner toutes les références, surtout qu'une partie de ses histoires n'ont pas été traduites en France. Sinon, juste une chose, Carlos Trio avait eu le prix du meilleur scénario lors du festival d'Angoulême en 98, et donc il s'est éteint à l'âge de 68 ans. C'est vraiment dommage, parce que c'était vraiment un maître du polar. Donc je ne peux que vous recommander Spaghetti Brothers et La Grande Arnaque, qui était très beau, et puis l'ensemble de ces BD était de toute façon d'un très très haut niveau. On va commencer les sorties bande dessinée avec un hasard complet. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé d'une BD sur Al-Qaïda qui était arrivée dans mes mains en fait même pas 2 jours avant l'arrestation, avant l'arrêt définitif des activités de Ben Laden. Et là, bah, c'est à peu près la même chose puisque les socialo.
Mais la liquidation judiciaire, tu veux dire.
Oui, si on veut. Mais tu me coupes en intro là. Les socialo, la BD est arrivée en fait quoi même pas deux jours, c'est-à-dire samedi de la semaine dernière. Et là, donc, c'est une BD scénarisée par Lionel De Rose et dessinée par Raphaël, sortie chez Fête Jeanne. Et je sais, vous n'y avez pas échappé, c'était les 30 ans de l'entrée à l'Élysée de François Mitterrand. Et faute d'avoir un programme, l'ensemble des calciques prétendant à la candidature socialiste sont tous réclamés l'esprit de tonton. Comme si à l'UMP, en fait, on nous rabâchait encore celui du général. Alors évidemment, l'occasion était trop belle de ne pas sortir des livres sur le sujet, une BD fût-elle parodique. Et comme pour la BD sur Al-Qaïda, c'est une sortie prémonitoire, donc, puisque c'était, le bouquin était arrivé aux journalistes 48 heures avant l'arrestation par le NIPD de DSK, le patron du FMI, prenant son vol AF pour Air Dégé. Tiens, on parle encore de De Gaulle. Format 48 pages, cartonné couleur. J'avais des craintes et elles furent confirmées. Graphiquement, le trait est grossier, le sens du cadrage est approximatif, le découpage très primaire. À vrai dire, on a parfois un doute sur la maîtrise des personnages. Trop, on prend une page au hasard, on ne les reconnaît pas toujours. Sur le fond, les caricatures sont exagérées, ce qui est normal, c'est de la caricature et on est dans l'humour. On en rajoute un peu sur Ségolène Royal, sur le fait que le tout pareil, outre le comportement très French Lover de DSK, donc on parle des opérations chirurgicales esthétiques de Ségolène Royal, le gâtisme de Séguéla en matière de com. Bon, tout ça, oui, il y a des trucs, on ne le fait que décoder, puisque comme par hasard, les journaux n'en parlent pas forcément. Après, c'est très rare.
Ouais, elle a été opérée chirurgicalement.
Oui, elle a fait une opération de chirurgie esthétique.
Ah bon ?
Ah bon, comme par hasard, tu vois. À l'arrivée, juste à temps. Mais sans, très peu de journaux en ont parlé. Tiens donc, est-ce que ça tiendrait, je vais dire, du secret médical et tout ? Je ne sais pas. Par contre, une bonne idée dans la BD, c'est l'esprit de tonton. C'est-à-dire, c'est un peu sur l'idée des signatures du regretté Franquin, cul de lampe. En bas de la plage, de la planche, en bas à droite, qui prolonge le gag par une réflexion supposée du feu président. Donc oui, on rigole parfois, même si les gags sont hyper convenus. C'est un peu comme si on regardait le bébé de show. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc des années 80.
Crac crac.
C'est un humour à charge. On riait parfois nerveusement. Après, le livre ne fera absolument pas date. Et en termes d'humour politique ou de traitement par la BD de l'histoire de nos partis, on a vu très largement mieux.
Ouais, mais tu vois, là, BD de supermarché... Ah, peut-être que tu en parles après. Fête des pères.
Bah, c'est ça le problème, tu vois, c'est qu'on a l'impression... du coup, c'est une 48 pages couleur, donc c'est la BD de supermarché, effectivement. Donc c'est ciblé pour les collégiens, avec des crossovers, avec Fort Boyard, Koh-Lanta. Franchement, le soufflé, bah, il prend pas. Les gags, ils sont à peu près aussi drôles que son sérieux les communiqués de Benjamin Lancard, président des jeunesses de l'UMP, pour ceux qui ne savent pas. Ils manquent bien souvent leur cible. Alors sinon, je suis absolument désolé, hein, mais c'est un bouquin qui, pour moi, ben, n'est pas génial, voire même carrément mauvais. À éviter, même en cadeau. Lionel De Rose, donc, au scénario.
Ah si, si.
Raphaël au dessin.
Non, mais ça, c'est sûr que ça va se vendre. Hein. Les gens, ils savent pas quoi offrir. Tiens, BD, ça va lui plaire, les socialos, bon.
C'est un petit peu dommage, voilà. Moi, pour moi, ben, c'est...
Du caca, quoi.
À peu près, ouais. Amis, collègues à l'antenne, je vous prierai de ne pas vous fier à la pendule accrochée au mur en bois, mais je vous dis qu'il est exactement 12h14 sur Radio FMR, vous écoutez le supplément week-end. Et je suis par contre sincèrement désolé envers la présidente de région Poitou-Charentes qui nous accueille tous les ans en fin janvier. Donc, mademoiselle Ségolène Royal, l'occasion était trop belle de renouer avec votre phobie, celle qui vous a poussé à écrire un brûlot incitant aux autodafés. Alors d'après vous, sur quel sujet je vais embrayer ?
Moi je sais.
Bon, un disque pour du sport, le ras-le-bol des bébés zappeurs. Elle a sorti en 86.
Oui. Club Dorothée.
Ouais,
La mangas.
La mangas. Et ben voilà, je vais enchaîner sur les mangas. Je suis absolument sans pitié, mais que voulez-vous ? Il fallait parler d'un bon truc après. Et un bon truc, c'est Shotaro Ishinomori, qui est un auteur japonais classique qu'on découvre vraiment sur le tard en France. Et à chaque fois, vous pouvez acheter ces mangas, les yeux fermés. Ce sont des merveilles. Il n'y a rien à redire. Kozuryu est sorti dans la collection Sensei chez Kana. Et pour une fois, je ne vais pas me fouler. Je vais citer l'ouvrage parce que tout simplement, c'est le meilleur résumé possible. Kozuryu, son nom ainsi que son village natal sont inconnus. Il est apothicaire ambulant, mais aussi il traite le mal et se transforme en tueur. Ses parents ont été massacrés alors qu'il était enfant et il n'a gardé d'eux qu'une figurine plate de Kozuryu, le dragon à 9 têtes. Tout en vendant ses remèdes et en traitant le mal quand l'occasion se présente, il poursuit son voyage à la recherche du secret de sa naissance et de la clé de l'énigme cachée dans la figurine du dragon. Au premier tiers du bouquin, il y a cette case avec cette histoire. Et tu as un type, voilà, il est avec son lourd fardeau qui est chargé d'herbes, de plantes, des concoctions médicinales. Il a aussi des petits cadeaux pour ses bons clients, pour les enfants, comme des ballons en papier ou bien des estampes. Mais ça, c'est ce qu'on attend d'un package, d'un apothicaire qui va de ville en ville. Et lui, il a autre chose à côté. Il a des armes. Et donc il va de village en village au gré de son destin, et c'est par hasard qu'il découvre que la figurine du dragon à 9 têtes qu'il tenait en main au moment du massacre de sa mère, et ben va le mener sur la trace justement de ceux qui ont massacré son village. Alors 660 pages pour ce pavé, en histoire complète. Alors il y a une légende qui veut qu'on peut lire mon âge au cerne que j'affiche après une nuit blanche à tout lire. Je sais pas s'il y a confirmation.
Ouais, c'est vrai que là, tu fais plus que d'habitude.
Donc, c'est la preuve que ça marche. Oui, mais attention, c'est une superbe kaga.
Kagade, d'accord, merci.
Mais attention, c'est une superbe saga où il souffle un esprit proche des films de Chambara, c'est-à-dire les films de sabre et d'épée, avec le héros qui met son kimono blanc sur le matin, rougeoyant, où il va se faire tuer, massacrer.
Ouais, les films de Chambara, c'est japonais, attention, pas confondre avec le Wuchapan, c'est qui est chinois.
Bah oui, ça se passe au Japon. Et on est, c'est une série qui est sortie dans les années 70, donc on est en plein pendant le large d'argent du Chambara, qui plus est, sorti dans une revue où à côté sortait une autre BD qui s'appelait Baby Cart, Lone Wolf and Cub, donc c'est pas un hasard. Et une fois de plus, Shotaro Ishinomori ancre son histoire dans le Japon médiéval, période qu'il affectionne par-dessus tout. Je vous rappelle ces excellents Sabu et Ichi, où on suivait l'histoire en fait d'un jeune vigilant et d'un vieux masseur aveugle, et son biopic sur le peintre Hokusai qui était mais à tomber graphiquement et scénaristiquement, c'était vraiment une tuerie. C'était des œuvres qui sont plus adultes que le Cyborg 009 qu'il a révélé dans les années 60. Une fois encore, on remarque qu'il aime travailler sur les justiciers issus du plus bas de la société, au cœur parfois meurtri par les événements dramatiques qui leur a forgé un sens infaillible de la justice qu'ils appliqueront parfois d'une manière totalement détournée. Pour le curieux de la société japonaise, il notera énormément d'informations sur la société de l'époque, surtout sur la vie quotidienne populaire, puisque l'histoire s'attache plus à mettre en scène des villageois que des puissants. Sur le plan graphique, on a des mises en scène stupéfiantes de beauté, et malgré le noir et blanc à l'encre, on note des inspirations parfois impressionnistes, mélangeant une culture de la peinture européenne aux traditions des estampes. Superbe, une fois de plus, et probablement incontournable. Et je vois que Thomas, là, on l'a perdu pour les 6 prochaines heures, le temps qu'il finisse le bouquin.
Alors déjà, moi je suis rassuré parce que généralement, quand tu nous passes des pavés comme ça de 660 pages, il y a toujours, à un moment donné, dans un coin, tome 1. Et là, ça va, c'est un one-shot apparemment.
Ouais. Ça va beaucoup mieux et...
Non mais ce que tu viens de dire en plus, ça se rapproche vachement de son biopic sur Hokusai, quoi, où il y avait le mélange de l'histoire vrai et fantasmé de.
Ouais, non, mais là, c'est en costume, c'est pas basé sur un personnage réel. Okusai, c'était de la satire et on accentuait son côté cotard.
Non, mais je parle pas de l'histoire, je parle de l'illustration avec justement l'insertion des stampes, le mélange des styles, la découverte des styles européens par Okusai, ça c'est véridique.
Et des techniques.
Un petit peu les mêmes méthodes.
Et des techniques graphiques européennes. Mais là justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que Shotaro Ishinomori, il ne fait que du noir et blanc, sans trame, sans niveau de gris. Donc c'est vraiment le côté roots du manga, de ce côté-là, comme il a appris auprès de Tezuka. Et malgré tout, on a l'impression d'avoir des matins impressionnistes, on a l'impression d'avoir des références graphiques hallucinantes, des fois à la peinture italienne du 18e ou du 16e. T'es là, tu tombes des nues. C'est beau, c'est magnifique. Kozuryu, ce qui veut dire 9, et Ryu, dragon, c'est dragon à 9 têtes. Donc, dans la collection Sensei Shikana de Shotaro Ishinomori, ce serait dommage que vous passiez à côté, sincèrement. Parce que c'est vraiment un très 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 beau bouquin. Heureusement, Thomas, oui, vas-y, pardon.
Par contre, c'est difficilement transportable dans un sac de plage, mais ça se lit.
Ah, c'est pas dans la poche, c'est clair. Hein.
Ouais, voilà, c'est pas un livre de poche, c'est pas dans la poche revolver. Ça. C'est
clair. Par contre, toi, tu vas peut-être parler de poche revolver du coup, puisqu'on va rester dans la manga.
Oh, quel enchaînement, c'est superbe.
Bah, vas-y.
Ah, bon, d'accord, je pensais que tu nous passais du. Ah mais oui, non, mais pardon, oui,
c'est du là Coca-Lan.
Je fais du Xavier aujourd'hui, j'avais oublié que j'avais une BD avant la partie des BD.
Je t'explique, du sport, il m'a dit, il faut qu'à 13h, tout soit plié et tout, parce qu'Asushi, elle vient et elle va faire le ménage.
Oula, on reste dans le japonais alors.
Elle va faire le ménage dans le championnat, je tiens à préciser, ce n'est pas ce que vous pensez, même si on a parlé de DSK, attention. Hein.
Alors, bravo, merci, donc... Black Joke aujourd'hui avec ça, donc c'était un manga d'un genre très très différent du manga précédemment chroniqué. C'est un manga de Masayuki Taguchi et de Rintaro Koike. Alors ça se passe dans un futur proche, sur une île artificielle. Le Japon est devenu le 51e état des États-Unis. Et donc, afin de nettoyer le pays de ses criminalités, les casinos et attractions pour adultes ont été justement relégués sur cette île artificielle.
Je crois que tu as oublié un point important, c'est que le Japon a fusionné avec les États-Unis. J'ai lu une chronique.
J'ai triché. Oui, c'est le 51e état, c'est ce que je viens de dire.
Ah putain, merde.
Voilà. Merci. Et donc, tout ce qui est attractions pour adultes a été relégué loin des yeux sur une île artificielle qui s'appelle Neon Island. Et qui est devenu le territoire, bien sûr, des organisations mafieuses de tous bords et origines. Ça vient de partout dans le monde, des Allemands, des Italiens, il y a de tout. Alors, dans l'hôtel Onsen, c'est ce lieu, ce presque huis clos, ce lieu commun dans lequel on plonge. Donc, mieux vaut ne pas faire de vagues, puisqu'on risque de se frotter au duo de choc chargé des besognes du patron. Donc, nous avons le calculateur Kira, donc c'est le héros. Collectionneur de femmes, et le bourrin, son acolyte Kodama, obsédé par la castagne et doté d'un vrai talent pour broyer la concurrence. Alors voilà, à un moment donné, ils expliquent aussi, c'est une stratégie pour les négociations, il faut toujours qu'il y ait un gars qui réfléchit et l'autre qui est bourrin. Parce que le gars à côté, s'il est bourrin, mais qui fait peur physiquement, les gens ils voudront pas trop essayer de rompre les négociations à coups de flingue. Si l'autre, il est bourrin, mais que ça se voit pas trop, ben, ils auront peut-être tendance à vouloir le faire, mais ils savent pas à quoi s'exposer. Donc, à un moment donné, on lui met dans les pattes une nana qui est beaucoup plus dangereuse que son acolyte habituel. Mais le mec, il va voir son patron, il dit « Non, mais écoutez, elle fait du très bon boulot. Hein. Mais par contre, on n'a pas peur d'elle. Bon, » c'est ça. Alors après, les gens, ils se rendent compte qu'elle est dangereuse une fois qu'ils sont crevés. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que...
Où est passée la dissuasion ?
Voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez le feuilleter, c'est une série mais hyper outrancière au niveau du graphisme, enfin au niveau des bastons, parce que ils rivalisent vraiment d'originalité pour buter les gens. Chaque chapitre est indépendant, Et en fait, ça se finit toujours sur une mort différente. Alors évidemment, je vais pas spoiler ici parce que ça vous priverait de l'effet de surprise, de la joie si vous voulez de découvrir comment les corps sont démembrés, comment ils sont découpés. Parce que c'est vraiment.
Ah, mais ça va, il y a Takashi Miike au Festival de Cannes dans la sélection officielle.
Oui, mais ça défie des parfois les lois de la pesanteur et on voit quand même que les corps sont, on va dire, sont très friables et que certains personnages peuvent rester vivants très longtemps après.
Non, vous pouvez pas. Non.
C'est très ragoûtant. Alors si je vous dis que le dessinateur c'est celui qui est aux commandes de Battle Royale, ça veut dire on comprend mieux. Alors déjà, vous feuilletez cette BD, vous dites qu'est-ce que c'est que ce graphisme, parce que c'est pas du tout des jeux sur les trames, c'est des dégradés gris. Ouais. Alors tu dis ça a un côté un peu dégueu parce que en plus ça souligne justement les têtes vraiment patibulaires et vraiment grand guignolesque des personnages. On dirait mais il y en a pas un pour attraper l'autre. Tu te dis mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Les personnages ils ont pas des têtes qui aspirent l'empathie, tu vois. C'est que des vicelards, des mecs de toute façon. Alors, j'ai commencé la chronique en disant que c'était dans un futur proche, avec 51 états des États-Unis. C'est un prétexte pour lancer l'histoire, hein. C'est pas du tout géopolitique ni rien. C'est juste un prétexte pour mettre en scène des corps complètement découpés pour les foutre dans le fleuve. c'est le côté futur proche, et puis peinture, vitriol, la société. Non. Ça vous oubliez, c'est juste des histoires de malfrats qui se pètent la gueule entre eux et bon voilà. Après le dessinateur se fait plaisir parce qu'il dessine plein de femmes à poil. Le héros c'est un collectionneur de femmes.
Ah putain, méfie-toi.
Et oui parce que c'est vrai que ça se passe dans un hôtel. Il y a des coucheries, il y a de la violence. C'est vrai que c'est assez gratiné.
Et il y a parfois des gens qui rentrent dans votre chambre parce que c'était entrouvert.
Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On va pas trouver des résonances. Attention, hein, on essaie de trouver une ligne. Bon, on fait soft aujourd'hui. En tout cas,
on a loupé la larve.
On fait soft.
Voilà. Bon, moi j'ai ri. C'est vrai que c'est pas à mettre c'est pas à mettre devant tous les yeux, ça c'est clair. Voilà, bon, c'est outrancier, ça va de tu te dis c'est pas possible de faire dans cette violence là et puis tu te dis que chaque chapitre est vraiment un prétexte pour aller franco, donc moi je dis bah allez-y si vous êtes amateur, pourquoi se priver? Donc
amateur,
voilà.
Oh,
ça suffit, hein. Black Joke, tome 1.
Regardez n'est pas touché.
Voilà. De Masayuki Taguchi et Rintaro Koike. Koike, c'est le scénariste. Taguchi, c'est le dessinateur. C'est sur le label Kuri Dankama. Et voilà. Donc, on vous le. Voilà. Si vous aimez la charcuterie, on vous le conseille.
Et un rayon charcuterie chez Dankama. Rien en manga, ça. Enfin, bon. Tant qu'on y est dans du massacre et tout ça, on y va dans du grandiloquent, du violent, du brutal, du.
Ouais, on reste dans le plus 16.
Dans un monde où des super-héros sillonnent le ciel ou rôdent dans la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yugi, de la crème, du français et de la fille.
Il a encore Linus.
Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien, puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse de la Terre, les Gugus à super-pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés, et certains, parfois, doivent dégager. Et c'est là qu'interviennent nos petits gars.
C'était la chronique par du sport, merci.
C'est le tome 10 de The Boys.
Ouais.
Avec déjà...
Attends, on va encore se taper une réputation d'enfer aux États-Unis avec une couche pareille.
Alors déjà, le retour au dessin... pour l'ensemble des histoires de Darick Robertson, qui avait été remplacé dans le numéro précédent par un autre dessinateur, mais on ne voyait pas trop la différence. Hein, le scénario, c'est toujours de Garth Ennis, ça, vous en faites pas. Ce tome 10 s'appelle « Rien de tel dans le monde entier ». Alors, il faut toujours...
Alors c'est bien parce que pour la traduction française, il met toujours les références des titres parce que ce sont des références qui sont littéraires et tout. Là, il s'agit de poèmes de Rudyard Kipling. Ni plus ni moins, mon gars, mais si. Et à la lecture de ce tome 10, on se dit « Ah, eh ben, petite panne d'inspiration » ou alors « scénario suprêmement bien calculé ». Parce que dans ce numéro, bien, on va en apprendre un peu plus. On avait déjà appris un petit peu plus sur le passé de Billy Butcher, qui est le patron de cette équipe. Mais on ne savait pas d'où venaient les autres. À part petit Yugi, hein, bon, bien sûr, hein, puisqu'il est le déclencheur, on va dire. C'est à la base, hein,
ouais,
on
va
dire.
Le rookie qui va nous faire pénétrer
voilà,
dans cet univers.
C'est le rookie, hein, et c'est à cause d'un événement qui concerne sa vie personnelle qu'on rentre dans cet univers de The Boys. Mais par contre, les autres, on savait pas trop qui ils étaient, hein. C'est-à-dire la crème, le français et la fille. Eh bien, dans ce numéro, on apprend pratiquement tout sur les origines de ces trois autres personnages que sont la crème, le français et la fille. Pourquoi le mec s'appelle la crème ? Alors là, c'est assez gratiné, quand même.
J'ose pas imaginer.
Non, c'est pas ce que tu, à quoi tu penses. C'est différent, on va dire. Ça a un rapport avec Vote American, toujours. Alors. Le seul personnage en fait qui n'a pas de rapport avec Vote American et dont on sait qu'il va être embauché bien entendu par la CIA et par Billy Butcher, c'est le français. Alors l'histoire du français, bien sûr, c'est assez marrant parce que le titre de l'épisode s'appelle « Douce France, cher pays de mon enfance » déjà. Et en plus, on apprend que après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale et tout, le français, il rentre dans son pays, dans son petit village qui est situé dans les Pyrénées. Ouais. Et alors là, on va pas dire que c'est un déchaînement de clichés britanniques par rapport aux français.
Mais quand même.
C'est vachement fin, mais quand même. C'est-à-dire qu'on détourne certains clichés, quoi, mais de manière très très habile, hein, pour montrer que en France, on a encore gardé le sens de certaines valeurs, de certaines traditions, de beaucoup de traditions, on va dire, qui remontent à vachement de temps. Tu vois que pas pour dire que dans les pays dans les villages reculés de Pyrénées ou je sais pas du Massif central, les gens sont un petit peu arriérés. Non, pas du tout. Enfin qui sont un petit peu à part par rapport au monde moderne.
C'est des gens différents.
Ce sont des gens complètement différents qui vivent à leur rythme tranquille, peinard et tout, et puis qui font leur petite fête de temps en temps tranquille. Et en fait, c'est assez rigolo quand même. C'est vraiment très très bien foutu. Très très bien foutu, ça y a pas de problème. Parce qu'au départ, hein, le français, c'est un mec tout à fait normal et tout tranquille. Et c'est bien entendu une déception suite à une histoire d'amour qui va provoquer sa haine, sa rage, et puis qui va lui faire tourner kazakh. Et alors y a vraiment une scène absolument monstrueuse, quoi. Vous pouvez voir, c'est la pochette d'ailleurs, hein, c'est la couverture et tout. Et en fait, il est monté sur un cheval, j'allais dire, sur un vélo. Avec une baguette géante, donc d'accord. Mais en fait, imagine-toi qu'ils sont à cheval avec une armure et puis que ça, d'accord. C'est une lance.
D'accord.
Il s'agit en fait de joutes.
De joutes à vélo, d'accord.
Voilà, joutes à vélo avec une baguette géante. Mais il précise à un moment, attends, c'est du pain rassis, donc il est dur. Ok.
On imagine moult gag propre à Garcenis avec la baguette.
Voilà, alors c'est le segment qui en fait est vraiment rigolo, où c'est pas glauque, c'est tranquille, c'est bon, tu t'amuses, t'es là, tu rigoles, tu dis ah là là, c'est pas possible et tout. Alors que les deux autres segments, c'est-à-dire l'origine de la crème, c'est-à-dire c'est le gros black, musclé, barbu et tout ça. Bon, là, c'est vraiment hyper glauque. Ça a un rapport avec Vote American, mais alors là, vraiment directement, on va dire, s'il est devenu ce qu'il est, en fait, c'est à cause de Vote American et de ce que, en fait, ses parents ont subi, indirectement, mais quand même. Et pour la fille, c'est pareil. Alors, j'avais jamais remarqué, moi, et bon, c'est vrai, parce que dans tous les autres numéros, tu sais pas d'où elle vient, elle dit pas un mot. Et c'est toujours le français qui parle pour elle.
Oui, et elle est redoutable.
Mais tu ne sais pas d'où elle vient. En fait, tu apprends qu'elle est japonaise et qu'elle vient indirectement de par ses grands-parents d'Hiroshima.
Oula.
Et là, tu te dis, ça commence à me dire quelque chose et tout. Mais en fait, ça n'a pas rapport avec elle, ça a rapport avec sa mère Et elle, en fait, un petit peu par hasard, on va dire, elle se retrouve dans un laboratoire qui est une filiale japonaise de Vote American, et en fait, où les Japonais essayent de concurrencer Vote American quant à ce fameux composé V, tu sais.
Oui, oui. Hein,
et donc, manque de bol, elle est encore toute petite, hein, gamine, c'est-à-dire elle marche à peine, elle arrive à peine à marcher sur ses pieds, et bon, elle trouve une substance, elle aurait pas dû, quoi. Et puis bon, ça la transforme un petit peu, quoi. Et puis bon, elle se fait quand même récupérer à la fin, voilà. Bon, ça, c'est sans trop dévoiler un petit peu l'intrigue, de toute façon. Mais là, c'est vraiment le segment le plus glauque, de toute façon, y a pas de problème.
C'est vrai qu'elle a un faux air de Sadako, un peu, avec les cheveux.
Ouais, mais là, tu comprends un petit peu mieux. Là, le graphisme est un petit peu plus prononcé, parce qu'il y a plus de gros plans d'elle et tout, ça la concerne. Et donc, tu te rends compte que là, vraiment, qu'elle est asiatique, quoi. Ça, d'accord. Tu le vois vachement mieux. Hein, parce qu'au départ, c'est vrai que tu sais pas vraiment. Hein. Puis elle a tout le temps les cheveux dans la figure, enfin bon, assez mal coiffée. Et là, tu remarques un petit peu mieux. Donc, en fait, impeccable, nickel. Hein, comme ça, tout est posé. À partir du numéro 10, on peut de nouveau aller de l'avant et continuer à combattre Vote American et tout ce qui s'y. Tout ce qui s'y rapproche, et surtout, bien sûr, les Gugus à super pouvoir. Donc, fortement recommandé, de toute façon, c'est The Boys, le numéro 10. Hein, mais à la limite, il n'y a même pas besoin de lire les précédents pour lire celui-là, parce que ça raconte vraiment des histoires spécifiques à certains membres du groupe. Quoi. Donc, à la limite, vous commencez par celui-là, et puis après, vous procurez les autres qui sont déjà sortis, ou vous attendez la prochaine livraison, de toute façon. Alors, sachant qu'il y a 70 numéros qui sont sortis dans la version américaine, format comics, bien sûr, avant l'apparition en librairie, là, on en est au numéro 38, donc on a passé la moitié.
Mais 70, c'est le dernier, le 70 ?
70, c'est le dernier, en principe.
D'accord.
Quoi. Donc là, comme il y en a 4 par numéro, quoi, on peut se dire que on va arriver jusqu'au tome 18 ou 19, quoi, tranquille.
Ouais, voilà.
Donc c'est pas mal, quoi. Bonne continuation. Donc The Boys, numéro 10, tome 10, rien de tel dans le monde entier. C'est le titre de ce tome 10, donc toujours chez Panini Comics et Dynamite Comics dans la version américaine. Mais bon, il n'y a pas de problème, c'est de la balle, achetez les yeux fermés. Et il a loupé.
Oui, parce qu'il y a un bug sur la durée, tant pis, ce sera... Hop. Nicolas Conte, performed by Cop, Fuoco Fatuo. Il y avait effectivement une aversion de CD.
Sure it was tight. Every man should have a raincoat, preferably white. But I'm going off piste, and so it's back to the night. See, Noah was throwing a dance at the Ark, a club up by the station, it was down by the park. See, 7 arenas and 40 DJ, 50 MCs and turbo sound K. I saw the queue at the front, I saw the queue at the rear. I see Noah with a clipboard, so I swallow my fear. Yo, Noah, what happened? Can you give me the squeeze? I got the rain dripping down me from my chest plate to knees. I just need to chill, I just need to dance, I just need you to get me out of this circumstance. He said, now, listen, Zinger, cool, but I can't let you in. I'm a kind of fool here. I got two
of everything. You see, the night was called Pez. He was meant to come in too. See, the list is here, now tell me what can I do. I got two of them garage heads and two with the locks. I got two of them hippies and they ain't wearing no socks. Oh, two of them bald heads and two with the eyes and wonderful bunny with some incredible thighs. See, a two good lookers and a two that is rough. Two I don't know now and two they're calling me bruv. Well, a two of them bad boys and two without sin. Well, you know what I'm saying, the deal is it's what I wanted. When I said, how pity no, what a terrible night. You can't burn a draw, cause it won't stay alight. Well, I'm a regular at the art. You know my face all the way back from morning. See, it's me, I've been on your case. He said, take a look, you know it's all love. I'm ram up in here, just look on, take a look, bruh. But it's wet out here, Noah, I might even drown. All I wanna do is stand around in the sound and rest for a while where the bass lines grow. I'll let me dry off and then I will go. He said, I hear what you're saying, but I can't let you win. I stick to one out, one in. Oh, I mean, what do you want me to do? I don't want to treat you like a fool. Listen, Gretchen, just these are the rules. But I says one of them is Zinger and one Rob's G. I can also be said, so now that would be free. Oh, no one looked puzzled, said, you talking clone? I says, no, not really, it's just two lines and one phone. He said, okay, I let you inside. And that's how I got to squeeze to the arc for a ride.
Fuoco Fatuo, repris par Nicolas Conte et Cop.
One in, one out, it was a one in, one in, one in, one out.
Hop, erreur de...
Fatale erreur.
J'étais sur le mauvais track. DVD vous est présenté en 16 9e ultra plat 2 dimensions par Ultimatum.
Et oui,
ouais, oui,
voilà. Non, donc aujourd'hui on parle de Outrage. J'essaie de le faire avec accent japonais. Outrage. Voilà. Un film de et avec Takeshi Kitano, avec aussi Jun Kumimura et Ryo Kase, édité en DVD chez HK Video. Alors, évidemment, quand on chronique un film de Kitano, on s'attend toujours à ce qu'il y ait toujours les mêmes noms dans les acteurs. Mais justement, il a voulu rompre, en fait, avec son équipe fétiche, avec ses acteurs.
Son Gundam.
Voilà, c'est Gundam, voilà. Son compositeur fétiche, puisque ce n'est plus Joe Hisaishi qui sonorise ses films. Bon, c'est dans le même optique, hein, une espèce de synthé derrière, mais on dirait que c'est encore plus décalé. Moi, j'aimais bien Hisaishi, donc ça fait bizarre de voir de la musique sur des films de Kitano qui ne soit pas signée par ce compositeur. Et donc, c'est surtout le retour de Takeshi Kitano au film de Yakuza depuis sa fameuse trilogie autobiographique, autoparodique sur le maître et la création qui était Takeshi's l'Achille et la Tortue, et entre-temps, il y avait un autre film. Glory to the Filmmaker, voilà. Alors, c'est un retour 10 ans après, après son Aniki mon frère, 10 ans après, je sais plus, je crois que c'était en 2001, il me semble.
Ouais, globalement, voilà. Ouais, 2000-2001.
Voilà. Alors, voilà, cette nouvelle histoire, un Yakuza, alors attention, il y a beaucoup de noms, hein, faut s'accrocher. Un Yakuza du clan Otomo, alors Otomo c'est Kitano, associé au clan Ikemoto, est arnaqué par les patrons d'un bar à putes travaillant pour le clan Murase qui vient de signer une alliance avec Ikemoto. Cet outrage va provoquer des tensions dans le clan où, entre multiples règlements de compte, chaque malfrat veut tirer son épingle du jeu et trahir ses semblables.
Bon. Donc c'est un Mexican stand-off avec trois clans.
C'est ça.
Et X milliers de tueurs, quoi.
Voilà, sauf que en fait, tu t'aperçois à la moitié du film qu'il y a le grand patron, apparemment, je pense qu'il se fait chier. Et il essaie de monter ses hommes les uns contre les autres. Alors il dit, bon, toi tu sais que si tu te sépares de lui, ça fait 20 ans que t'es bras droit de l'autre là, tu sais, tu pourrais prendre sa place, il faudrait que tu le pousses à la démission. Bon, après il demande à l'autre, tu sais, lui, il faudrait que tu te sépares de lui, tu auras mon soutien, t'inquiète. Voilà. Après il dit, tu l'exclus à lui. Lui, non, mais c'est bon, lui, il déconne. T'es mon futur bras droit. Voilà, donc il sème une zizanie pas possible entre ces hommes. Et ce qui s'apparentait au départ à une petite histoire de bar à pute avec un mec qui réclamait du fric et tout, mais c'était juste une petite liasse et tout, ça prend des proportions gigantesques avec la loi du talion, avec t'as un mec crevé chez moi, je vais te pourrir ton homme demain aussi. Normalement, ça devait se terminer au cutter. Ouais, parce que c'est un peu crade, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça termine pas là. Et puis ça part sur autre chose après. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce film. Ça part sur un petit truc à petite échelle et ça prend une ampleur pas possible en englobant tout le clan de Yakuza. Pour une fois, Kitano, sa signature avant c'était de la violence, mais c'était des giclures, mais c'était aussi de la violence qui était dite hors champ, puisque c'était souvent un coup de flingue, on n'en parle plus. Un suicide, puis c'est réglé avec la mère, voilà, c'est basta, film sélectionné à Venise, et puis voilà. Et bien là, aujourd'hui, non, c'est une violence qui est plus montrée, plus graphique, donc là, on a pas mal de scènes de torture et de tabassage en règle, mais vraiment gratinées. On a du charcutage au cutter, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, on lui dit, tu tranches un doigt, c'est la règle et tout. Allez, arrête de parler, filme un couteau, tiens, t'as un cutter. Ah non, mais attendez, t'es un cutter, espèce d'enfoiré et tout. Bon, allez, tu prends comme ça. Alors, il commence à sortir le dos au cutter, t'as un gros plan sur la tache de sang en bas, et puis il arrive pas. C'est vraiment du gratiné. À un moment donné, il y a un Yakuza qui se fait choper chez le dentiste, alors. Voilà, il finit tout le reste du film avec un espèce de truc sur la bouche parce qu'il est tombellement saccagé. Enfin, c'est t'as plein de. On n'est pas dans l'humour décalé habituel de Kitano, mais plutôt dans. Il y va franco là. Et d'ailleurs, il y a une présentation du film par Kitano lui-même dans les bonus au départ. Il dit on m'a demandé, ouais, c'est quand que vous revenez au film de Yakuza. J'ai fait un truc tellement violent, je suis sûr qu'on me le demandera plus maintenant. Alors, un autre truc qui étonne aussi, c'est que c'est un film étonnamment bavard pour du Kitano. Alors, les gimmicks habituels, c'était des personnages qui regardent la caméra sans bouger, cadrés...
Ou qui regardent au loin, la mer, de préférence.
Voilà, qui sont cadrés à la poitrine. C'est souvent des non-dits, justement, qui parlent plus que la parole et tout. Mais en fait, là, il leur a dit, il a changé d'acteur, il a pris que des acteurs avec qui il n'avait pas l'habitude de travailler, il leur a dit, vous passez votre temps à vous insulter du début à la fin. Donc voilà, de manière sonore, le film, c'est à peu près ça. C'est... Après, tranchage de doigts. Après, il y a des intrigues. Alors, il y a le grand patron qui parle à ses gars. Ouais, tu sais, toi, si tu prenais sa place et tout. Et puis après, alors le mec, il va faire la basse besogne. Et tabassage à la batte de baseball. Enfin, voilà, c'est de l'insulte. C'est assez marrant parce que tu vois que c'est indéniablement la patte de Kitano. Mais il abandonne pas mal de trucs qu'il avait inventés pour aller vers autre chose. Alors... On peut être fan ou pas fan parce que justement le film, même s'il se sépare de tout ce qui faisait le décalage et le truc proprement kitanesque, parce que c'est que lui qui faisait ça, maintenant on a une violence un peu plus léchée, plus montrée, on a une image qui est beaucoup plus travaillée, plus classe même, puisque les Yakuza cette fois-ci sont intégralement en costard, bien sapés, avec des cravates sobres, des chemises foncées, brillantes, vraiment un truc classe de chez classe.
On a tous vu les films de Tarantino.
Ouais, mais là, en fait, t'as pas de Yakuza désœuvré qui joue au sumo sur la plage ou au frisbee avec des chemises hawaïennes. T'as toujours des chemises hawaïennes tout le temps. Là, maintenant, dans le film, tu dis, on va pas voir la mer aujourd'hui. Si, il y a une scène à la mer à la fin. Voilà, elle est filmée différemment d'habitude, mais il y a quand même la mer. Et puis vraiment, on sent que ça apporte un peu la patte de Aniki mon frère, le film qu'il avait fait aux États-Unis, qui était déjà plus, je dirais, de palmesque, avec les mecs vraiment bien sapés. Là, on a du ralenti, on a des belles limousines qui sont ralenties aussi, des belles brillances sur les murs, des appartements assez classe. Voilà, t'as moins d'humour. Moi je dis il veut changer, il a passé un cap. suite. Je dis pourquoi pas, voilà. Ça évite. Bon, c'est encore un film de Yakuza, mais il arrive quand même à minimum à se renouveler. Donc, moi je dis, bon, c'est un Kitano entre guillemets mineur, mais ça reste du très bon quand même, puisque c'est quand même le maître du film de Yakuza actuel, hein, qui quand même livre son dernier opus. Donc, je sais pas qui est intéressé. Allez, ça va du sport.
Bah, j'ai pas de lecteur DVD, j'attends qu'on me le livre.
Ah, bah oui, d'accord. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Voilà, il y a de la redite, mais voilà, c'est différent. Je pense que tous les fans de Kitano préféreront sa période antérieure. De toute façon, c'est une vérité absolue, donc ça, bon, je vais quand même le dire, mais il a jamais fait mieux depuis Hanabi, bien sûr. Ouais. Mais voilà, on n'a pas le côté touchant, le côté un peu presque frappadingue ou même burlesque ou pathétique de ces personnages antérieurs. Là, c'est vraiment des mecs qui sont sur un échiquier. Alors, ça prend.
C'est plus hard-boiled.
Ouais, mais ça prend une proportion vraiment proportion de trahison généralisée vers la fin. Jusque-là, tu te dis, mais c'est quoi ce film? Où c'est qu'il va en venir? On dirait qu'il est en roue libre. Et c'est qu'à la fin que tu comprends, ah d'accord, le film il est centré sur ça, mais ça met du temps à décoller. Voilà, ça reste quand même un bon film. Outrage, passé relativement inaperçu lors de sa sortie au cinéma chez nous. Il avait été présenté au Festival de Cannes l'année dernière. En bonus, il y a un making-of, qui est pas vraiment un making-of, puisque c'est souvent des séquences de tournage prises sur le vif. On voit comment Kitano travaille, il va diriger ses acteurs, ensuite il va regarder ça au prompteur, il va dire ouais, c'est bon, elle est bonne, on enchaîne. C'est souvent, voilà, c'est pris sur le vif, il n'y a pas de commentaires par-dessus. C'est toujours intéressant, ça dure une vingtaine de minutes. Voilà, Outrage, ça reste quand même du bon film de Yakuza par Takeshi Kitano. J'attends quand même de pied ferme, qu'est-ce qu'il va faire après, quoi. Est-ce qu'il va poursuivre encore dans le film de Yakuza, ou est-ce qu'il va, il a fait ça pour avoir une espèce de bancabilité pour ses investisseurs, pour continuer un peu dans sa veine autobiographique des trois films précédents. On sait pas, on va voir. Voilà, deux derniers films de Kitano où il joue dedans, Outrage, qui est sorti chez HK Vidéo. C'est tout frais, c'est tout beau, achetez-le, voyez-le.
Después de las 12 de la noche y a la 1:02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi.
Radio Éphémère Super en Weekend 12h52 minutes.
Déjame hacer una conversión.
Et du sport se dit après une longue journée éreintante et difficile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le foot?
Ah bah il y a les séries bien sûr.
Et ça commence cet après-midi. Donc je me suis planté mon lancement.
Ouais. Non mais c'est pas grave, hein. Ça c'est dû à l'excellente programmation. Et d'ailleurs j'ai lu cette semaine que le responsable de la programmation des fictions chez TF1 avait giclé et avait été remplacé parce que sur les derniers programmes. Sur la dernière programmation, enfin de l'année écoulée, on va dire, et des années précédentes, eh bien, il y avait eu pas mal de flops. Surtout dans
les
émissions. Il n'y
avait pas dans les séries.
Non, surtout dans les émissions télé-réalité, mais également.
Programme de flux.
Ouais. Et surtout dans la programmation un petit peu aléatoire des séries, enfin c'était un petit peu du tout et n'importe quoi, ou même TF1 se faisait régulièrement damer le pion par les chaînes publiques, par France 2, par France 3,
par
sur
M6
des soirées, ou par M6, ouais. Non, M6 ça va encore parce que c'est un petit peu l'équivalent, hein, au niveau chaîne commerciale, mais tu te rends compte, se faire damer le pion par une chaîne publique qui ne fait même pas de pub avant 20h30, non mais c'est n'importe quoi, alors hop, allez, dégage. Et ça continue avec cette série qui s'appelle Undercovers. Alors le pitch, il est très simple, c'est un couple d'agents, d'ex-agents de la CIA qui se sont retirés, puis qui ont ouvert un petit resto et tout, et on va faire appel à eux, et donc ce sont déjà, on peut les considérer comme des agents dormants, hein, et ils vont recommencer à remplir quelques missions. Alors,
remettez le couvert.
La série vaut parce que, eh bien, il y a une petite ressemblance avec le film qui a fait se rencontrer Brad Pitt et Angelina Jolie.
Mr. Smith.
Voilà, et également parce que c'est une série qui est initiée par un certain J.J. Abrams et Josh Reims. Reims comme la ville de Reims, qui lui est moins connu, mais il nous a quand même fait au niveau production, création, Felicity et Brothers and Sisters. Donc voilà, ça montre un petit peu le niveau, quoi. Donc c'est du sérieux, c'est pas du grand guignol, avec en plus une petite pléiade d'acteurs pas franchement dégueulasse. Et en plus, pour une fois, bien, on a un couple d'acteurs de couleur, hein, qui sont les héros principaux de cette série. Boris Kodjo, qu'on connaît un petit peu parce que il était dans Starship Troopers 3 déjà. En plus, c'est un type qui, assez distingué, qui parle couramment quatre langues, de son vrai nom, Boris Frédéric Cécile Tainate Ofuate Kodjo, hein, ça en jette les gars, hein, et on l'a vu également dans un rôle récurrent dans la série également afro-américaine qui s'appelle Soul Food, qui avait été diffusée par Série Club il y a quelques temps. À ses côtés, donc, sa partenaire, c'est Gugum Pataro, hein, qui est une Anglaise, mais qui vient d'Afrique du Sud, et que toi, tu dois connaître à coup sûr, parce que c'est elle qui interprète Tish Jones dans le Doctor Who 2007, et on la voit également un petit peu plus
On la voit dans Londres, police judiciaire.
C'est plus récent. On la voit également dans cette excellente série dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Les Condamnés, Bad Girls en anglais, qui raconte le quotidien de femmes dans une prison de femmes. Il y a que des nanas pratiquement. Génial, excellente série. Non, vraiment très bonne série. Et on la voit également dans un rôle récurrent dans MI5. À ses côtés, dans les rôles récurrents, il y a également Gerald McRaney. Lui est plus vieux, hein, c'est lui qui chapeaute un petit peu le tout, et on l'a vu dernièrement dans le film The A-Team, hein, c'est lui qui joue le rôle du général Morrison. C'est un vieux de la vieille, hein, il est dans les années 40 et tout, il a toujours plus ou moins ce genre de rôle. Et il y a également Brad Grunberg, hein, qu'on a vu dans un rôle récurrent dans NYPD Blue, où il a fait l'ensemble des saisons, comme Dennis Franz d'ailleurs, hein, c'est un des seuls. Et pourquoi ? Parce que c'est lui qui tient le petit bar dans lequel les flics vont après le boulot. Et son surnom, c'est Louis Cocktail, quoi, dans NYPD. Et on le voit également d'ailleurs dans Les Chèvres du Pentagone au cinéma, dans Spider-Man, dans Austin Powers Goldmember. Ça va. Donc, série à suivre peut-être. Bon, il y a juste l'horaire qui est un petit peu inadéquat, on va dire. C'est à partir de cet après-midi, 16h10 sur TF1.
Je suis en pleine sieste.
Il y a des choses qui fâchent. C'est comme ça. L'autre série qui est complètement inédite.
Ceci dit, maintenant avec leur VOD, je vais pouvoir faire tranquillement.
Ah oui.
Il y a moins de pubs en plus, personne ne suit.
C'est bon. L'autre série complètement inédite à venir cette semaine, c'est lundi prochain sur Paris Première. À 20h35, ça a l'air plus intéressant. Un thème déjà vu et revu, mais on va apprécier l'exercice de style et l'exercice d'interprétation de la part des comédiens et des comédiennes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une histoire d'avocat de la défense à Las Vegas. Alors on se rappelle cet excellent documentaire sur les avocats sur des affaires vraies, filmé par le type qui avait filmé l'effondrement des tours, quoi. Je sais pas si c'est avec Xavier de l'Estrade, et qui avait fait un super documentaire qui s'est passé en plusieurs parties sur Arte vendredi soir en troisième partie de soirée sur des histoires vraies. Il a pu filmer dans un tribunal des affaires, différentes affaires et tout. Et là, c'est de la fiction, il n'y a pas de problème. Alors, il y avait déjà une série qui était sortie en 1961, de 1961 à 1965, qui s'appelait The Defender, qui avait d'ailleurs obtenu un Golden Globe, où il s'agit d'un duo père-fils qui sont avocats et qui vont également défendre la veuve et l'orphelin, on va dire, interprété par E.G. Marshall, Robert Reed, Ossie Davis, et avec dans un rôle récurrent un certain William Shatner, en 1961-65. Alors, ce Defender 2011, il s'est créé par Nils Müller, qu'on a déjà vu parce qu'il est scénariste et producteur de Séduction en mode mineur, un film américain, et L'assassinat de Richard Nixon, et il y a également Peter Kennedy qui crée cette série. On l'a vu dans Sam the Man ou Curfew, encore plus loin dans le temps. Par contre, les interprètes, là, ça peut valoir le coup. James Belushi, qu'on avait vu déjà dans Total Security avec James Remar et tout, une série qui n'avait pas du tout marché, une série de Bochco, mais qui s'est arrêtée à la fin de la première saison. Un petit peu dommage parce que c'est assez rigolo quand même. Et on l'avait vu également dans un rôle récurrent dans la série Wild Palms. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série qui était un petit peu foutraque, un air de truc de David Lynch, une ambiance de David Lynch, une ville un petit peu imaginaire, il se passe des trucs bizarres, assez sympa à regarder. À ses côtés, Jerry O'Connell. Ah bah oui, lui il est dans tous les bons plans. Sliders, dans la série Preuve à l'appui, enfin bon, ok, ça va bien. Et du côté des gens qu'on connaît un petit peu moins, il y a Tanya Fisher, Teddy Sears, personnage régulier bien sûr, hein, récurrent, et Journey Smollett, qui elle, ben, a fait déjà toutes les séries médicales récentes, hein, Grey's Anatomy, Dr House, ER, elle a été dans NYPD, elle avait un rôle semi-récurrent pendant une demi-saison, plus récemment dans Friday Night Lights, bon ça va quoi. Et avec en plus des rôles un petit peu moins récurrents, voire des apparitions sur un ou deux épisodes, on a Julian Acosta, encore un frangin Belushi, parce que bon, c'est une fratrie de quatre, hein, il en manque un qui est mort il y a pas mal de temps, c'est John, mais il y a Robert Belushi. On a également Frank Sinatra Jr. qui joue son propre rôle. Dan Aykroyd n'est pas loin et il intervient dans deux épisodes où il joue le rôle d'un juge. Milena Gović également, hein, qu'on avait vu dans la série Law and Order, où c'était la collègue de Chris Nutt, me semble-t il, dans New York section criminelle.
Non, mademoiselle, ne rentrez pas. Il y a des gens à poil qui peuvent sortir de la douche, là.
Il y a également Eric Palladino, Mark Rolston, Harry Egros et tout ça, Harry Egros qu'on a vu.
Oui, il est 13h sous Chine, tu viens de
dans la série Castle, casting pas mal quoi, c'est une série qui a l'air assez intéressante. Diffusée donc à partir de lundi sur Paris Première à 20h35, The Defense. Et ce sera tout pour la série, pour les séries cette semaine. Ah bah si, une petite rubrique quand même, on va souhaiter bon anniversaire aujourd'hui à Nick Cassavetes qui a 52 ans, Lisa Edelstein qui a 45 ans, Judge Reynolds qui a 54 ans, Mr. T qui a 59 ans, Richard Hatch qui a 64 ans aujourd'hui, et Raymond Burr, bon bah qui a plus rien parce qu'il n'est pas rentré, qui est quand même né un 21 mai le 1917, et également un autre qui est disparu, mais lui on s'en fout. C'est le Milwaukee Monster, Jeffrey Dahmer, qui est également né un 21 mai.
Alors juste une chose qu'on avait oublié, point de vue info, c'est qu'on a un ancien de la radio.
Oui, donc on a...
À Cannes.
Journaliste cinéma Alex Masson, qui est juré au Festival de Cannes. Alors ouais. Il n'est pas juré dans la catégorie Palme d'Or, la catégorie officielle, mais il est juré dans la section Caméra d'Or, qui récompense donc, toutes sections confondues, le meilleur premier film. Et sous un jury présidé par Bong Joon-ho, quand même le réalisateur coréen, réalisateur notamment de Memories of Murder, The Host et Mother. Voilà, donc Alex Masson qui...
Voilà, c'est donc ça doit faire plaisir à tous les Alex Massonophiles qui cherchent, qui traquent le moindre de ces sujets, aussi bien dans Trax sur Arte que dans Femme Actuelle, ou...
Première.
Oui, première aussi, oui, voilà. C'est vrai. Il me semble qu'il avait fait aussi dans Ciné Live, voilà, au bout
d'un moment. Mad Movies peut-être aussi,
Mad Movies, crois. Oui, ça c'est obligé, ça c'est sûr. Ouais. Juste pour info, donc pour clore en quatrième vitesse sur le.
Tu n'as pas parlé de.
Oui.
De ça là.
Oui, si, mais j'en ai parlé. Je l'ai fait dans. J'allais y revenir dans l'agenda, mais j'allais penser à un truc que tu allais complètement oublier. C'est Matrix, revu et corrigé par deux Français, Savitri Jolie Goffard et Raphaël Hernandez, qui ont fait un court métrage, enfin un moyen métrage, 55 minutes, c'est un moyen métrage, Kedera, et c'est disponible depuis ce matin sur Dailymotion, 55 minutes, produite pendant 6 ans, puisque le but du jeu c'est de faire aussi léché graphiquement que la trilogie, et sera diffusé sur une chaîne de télé que tu n'as pas du sport, dimanche soir à 21h, dimanche 29, dans format court, on en parlera peut-être la semaine prochaine.
Bah, t'as qu'à dire la chaîne de télé.
Bah oui, puisqu'on y sera le 1er juin.
Oui, donc
on y sera, nous trois.
Il s'agit de nos lives.
Voilà, puisqu'on a fait une vidéo pour les 4 ans.
Il fallait bien parler de nos lives dans cette émission.
Thomas, tu fais le pari de chroniquer Kedera, la semaine prochaine ?
Oui, allez.
c'est sur Dailymotion, donc avec les pubs qui vont interrompre toutes les 5 minutes, ça va être insupportable.
Par contre,
vas-y.
Non, je disais, pour prévenir, avant que tu me demandes de faire le résumé de l'émission, c'est une émission trop courte, alors je n'ai pas du tout eu le temps de faire le résumé.
Pour faire l'agenda, donc Jason, qui est un dessinateur norvégien, Underground, dédicacera le bouquin L'île aux 100 000 morts qu'il a fait sur un scénario de Velman chez Glénat, c'est à la librairie Gibert. Jeudi prochain au Majora, qui est donc à Villeneuve-Tolosane, il y aura une conférence menée par Jacques Duramat, directeur du Centre d'études de l'écriture et l'image et professeur à l'Université Toulouse 2, dans le cadre des Cafés Savoir. C'est sur la bande dessinée contemporaine et la marginalité. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pas n'importe où, puisqu'on sera en direct à Mixer Miris, au Theta Lab, donc qui est le Hackerspace toulousain pour le festival du Hackerspace. Où on aura du bricolage, du piratage, de la performance musicale et du grand détournement dans tous les sens du matériel.
Alors si vous aimez pas les trucs de geek, c'est même pas la peine de nous écouter, hein. Le samedi prochain.
On verra. On aura notamment l'information que tout le monde se pose. Combien y a-t-il d'abonnés à Ciné Novo, la chaîne de Orange, puisque cette fois-ci on aura un fan de l'émission qui viendra pour dire, pour en parler, et pas que de ça d'ailleurs. Il y aura plein de trucs extrêmement intéressants. Ceci dit, si vous voulez retrouver nos archives, nos émissions, nos précédentes chroniques, comme par exemple eh bien, les vidéos de cas qu'on n'a pas encore diffusées pour des idées de bento, l'interview de Marcus qu'on a filmé au TGS ou un ami, sujet par Thomas. Eh ben, il y a aussi la chronique sur la plaine du Canto, à travers l'Amérique avec les Rolling Stones, bouquin donc sur la tournée des années 70, Orion, les oracles, une vie chinoise, la biographie de Yoko Tsuno, le Grand Duc et plein d'autres choses. C'est pour ça, c'est très simple, suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, le site de l'émission supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, ouvert 24/24. Vous écoutez FM sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Comme vous l'avez compris, la semaine prochaine, nous serons au milieu d'une bande de hackers, des héros de la cyberculture, qui s'amusent à détourner les objets de leurs usages. Donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence, et sur au moins 3 radios, net radio en même temps. Ciao, bye bye.